Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 16h05, le Super Moscato Show, on y revient au mastic, bien entendu, comme tous les jours. On est là du lundi au vendredi, on se régale. Je veux le dire, on se régale, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, une bande de potes. On se fait la gueule avec Eric Dimeco, avec Steve Founébrin, avec Adrien Gouin. Mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, le ras-le-bol de Laurent Blanc, qu'on ne connaît pas comme ça, et qui a quitté la conférence de presse de l'Olympique Lyonnais.
Il s'agace quand même.
Il s'agace. Voilà, c'est pas, on n'est pas non plus sur un scandale d'État.
Non, mais il s'agace. Ouais. Mais tout ça, c'est, l'humeur, c'est momentum.
C'est le momentum.
C'est le momentum. T'es agacé.
L'humeur, c'est le momentum.
Et oui, puis, oui, c'est là. T'as pas, un jour, le même truc, ça passe, puis le lendemain,
la
ça passe.
La flamme olympique partira de Marseille pour rejoindre Paris en 2024 avant d'allumer la vasque olympique.
Faut pas qu'on la vole. Hein.
Ouais, bon, ça, j'ai trouvé toujours.
Elle arrive direct. Directement par la mer d'Athènes.
Ça, je l'ai jamais regardé, ça m'a jamais passionné.
Par contre, de la flemme.
Les mecs, ils croient qu'on est un gros.
Alors fais gaffe qu'on ne te demande pas de la porter parce qu'on risque de te voir la porter. Et là, tu as passé pour une trompette encore une fois.
Je vous donne le programme, la suite du programme dans un instant. D'abord, le direct avec un résultat. Nous accueillons Eric Salio.
Bonjour Eric.
Bonjour
à tous.
Car je le sais peut-être, Vincent, c'est le premier tour de la Coupe Davis.
Non, il ne le savait pas.
Hongrie-France.
C'est pas possible.
Alors c'est toujours la formule Cosmos de Gérard Piqué, mais il se trouve que le premier tour, c'est à l'ancienne. C'est en formule Omen Away. Donc là, on est en Hongrie.
C'est hybride, quoi.
Oui, selon l'ancienne formule, et on est mené, Eric.
Et c'est à Tatabánya.
Tata Yo-Yo, on connaît
55 km de Budapest. Et mauvaise nouvelle, puisque Benjamin Bondy, notre numéro 1 tricolore, a été battu à l'instant par le numéro 2 hongrois Zombor Piros, 182e défaite, 7-6-6-3. Donc grosse pression sur les épaules de Hugo Humbert, qui va fêter sa première sélection dans quelques minutes face à Martin Fuchsovic. Si vous êtes curieux, vous tapez Fuchsovic sur Google et vous comprendrez, le mec, il est plutôt musclé. Enfin bon, ça en fait pas un très bon joueur de tennis. Hein.
À tout à l'heure.
1-0 Hongrie.
Sinon, le numéro rugby, s'il est bien musclé. On est en première ligne rugby.
Les deux débats de 16h et 17h, tout de suite. Chelsea, un demi-milliard en 6 mois. Vincent règle le problème. Et puis à 17h, une question toute simple. Le faux pas est-il vraiment possible en Italie? On parle tournoi destination avec un invité surprise, un invité mystère.
C'est
qui
vrai.
Va ravir tous ceux qui suivent. Le super Moscato Show. Qu'est-ce qu'il y a dans le journal moyen, Adrien, à 16h45?
Vous étiez en forme hier, c'était la 7ème compagnie qui était de retour, qui a pris le pouvoir du super Moscato Show. Vous étiez tous en grande forme et on va réécouter la façon dont hier Vincent a accueilli Johan Claret, champion de ski.
Tu vas me faire honte, c'est ça que tu cherches.
Je crois qu'on était sur un léger malentendu.
Ah mais je pense qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre.
Non, il savait très bien que c'était lui, mais il y a un problème sur de temporalité, on va dire.
De temporalité, ouais, tu crois? C'était pas par rapport au sport qu'il faisait, par rapport
à. Et en réécoutant, alors Pierrot, c'est exceptionnel, tu inconsciemment, tu t'en es rendu compte.
Ah.
Et tu as évité la catastrophe.
C'est possible, parce que ça me dit quelque chose.
Inconsciemment, tu t'en es rendu compte, et hop, avec ton talent, tu hop, ça glissait, puis on s'est rendu compte de rien. Voilà.
Après, il nous fait honte tellement souvent que.
16h45.
Ça fait pas deux secondes, m'attaque avec le tir.
En vrai, qu'on pourrait reparler de l'interview de Jean Galfion, Eric, par exemple.
Oui, par exemple.
Écoute,
là, j'ai eu honte. T'étais pas là, Pierrot, mais j'ai eu honte.
Non, mais
ce
je dis que j'étais dans ma voiture, je vous écoutais.
L'interview.
J'ai transpiré.
L'interview était au premier degré et Jean a répondu parfaitement.
Et
tous les mecs qui ont mal compris ou qui ont passé autre chose, c'est eux les tordus. Si vous avez un problème chez vous et que vous voulez le reporter sur les autres, c'est pas de ma faute.
Alors, en tout cas, il me reste à vous donner rendez-vous pour le dernier Kikadi de la semaine à 17h45. La possibilité de gagner un séjour VVF pour 4 personnes en pension complète. Il faut envoyer Kikadi par SMS au 7-32-16. Tout de suite, le bilan économique du mercato de Chelsea avec notre spécialiste Manu Petit.
Toute l'actu éco avec BFM Business.
Madueke ou encore Joao Félix en prêt de l'Atlético de Madrid. Chelsea a dépensé près de 200 millions d'euros sur ce mercato d'hiver.
Moi, j'appelle ça du jacobanisme.
En ajoutant le mercato d'été, ils étaient à 500 millions.
Il y a une levée de bouclier au niveau de l'OCA, de tous les grands clubs européens qui risquent d'avoir une bulle spéculative et expansionniste d'ailleurs.
Enzo Fernandez est en route pour Londres.
J'aimerais être une petite mouche pour savoir dans quel état d'esprit il est aujourd'hui.
La clause d'achat, c'est 120 millions d'euros.
Alors moi, je trouve que c'est quand même fort du café.
C'est leur grande stratégie pour amortir les dépenses et faire des contrats très longs.
Et ça,
toujours par un divorce avec porte et fracas.
Moscato, il va te le régler le problème.
Oh, le jacobanisme, je l'avais jamais entendu celle-là.
Ah ouais.
Le jacobanisme, putain, Manu.
Ça doit être une pratique sexuelle d'après moi.
Ah ouais, d'après moi. D'après moi, c'est quand tu t'auto.
Oui, voilà.
Sur un Jacob de la Fonte. Sur la lunette.
C'est
de bondiste. Porte info sur la lunette.
On se moque de lui, mais Manu, il a marqué un but en finale de la Coupe du Monde.
Mais
il nous règle tous,
hein. Respect éternel, c'est sûr.
Meilleur joueur de la finale, Manu.
Ça pêche pas que c'est phénomène, Manu.
Alors, on va donc parler de Chelsea. La folie des dépenses a vraiment franchi un cap, là, Vincent. Les clubs de première ligue dépensent sans compter parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Mais un club n'a absolument aucune limite. C'est Chelsea qui a dépensé 330 millions pendant ce mercato d'hiver. Et plus d'un demi-milliard en comptant celui d'été. Chelsea dynamite le marché, Vincent règle le problème. Le détail avec Timothée Mémon. Salut Timothée.
Salut à tous.
On peut dire que l'arrivée de Todd Boehly, le nouveau propriétaire, est un peu le point de départ de cette folie dépensière.
Exactement. Depuis la vente du club précipitée par la guerre en Ukraine et le gel des actifs de Roman Abramovich en Angleterre, Todd Boehly, milliardaire américain, a sorti le carnet de chèques. Rien que sur ce mercato hivernal, c'est même 370 millions d'euros qui ont été déboursés, avec en point d'orgue 121 millions d'euros dépensés pour l'achat d'Enzo Fernandez à Benfica ou 100 millions misés sur Mihailo Mudrik. Pour parler de politique sportive, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est dispendieuse, pour pas dire qu'on a complètement ouvert les vannes. Inutile de préciser qu'à l'époque du fair play financier insufflé par Michel Platini, le club londonien aurait fait résonner toutes les alarmes de l'UEFA, mais Seferin a assoupli ce dispositif devenu un mirage. Boehly a aussi fait place nette pour tourner la page de la présidence d'Abramovich. Tourelle, qui avait offert une Ligue des Champions à Chelsea, a été remercié en septembre. Son éviction faisait suite à celle de Petr Cech ou encore d'autres proches d'Abramovich. Côté effectif, ces investissements viennent évidemment régénérer le groupe des Blues, même le métamorphoser, avec des contrats très longue durée, comme celui de 8 ans signé par Mudrik ou Badiachil, un système qui permet en fait d'étaler la charge des transferts records pour rester dans les clous de ce qu'il reste en fait du fair play financier. Prochain mouvement pour le milliardaire américain, l'achat d'un club satellite pour faire pousser les jeunes talents. Todd Boehly entend réussir et gagner des titres vite, très vite, mais pour le moment les résultats ne suivent pas. Chelsea végète à la 10e place du classement.
Le pouponnière, mais ça,
oui,
ça
oui,
s'appelle.
C'est ça, c'est ça,
les pouponnières.
Voilà. Précision, alors évidemment le contrat longue durée, ça permet d'étaler l'amortissement. Est-ce qu'on sait s'il paye cash tout de suite ou s'il paye en plusieurs fois?
Non, en fait, il paye immédiatement. Enfin, ça dépend des arrangements avec les clubs. Il paye immédiatement,
mais
vis-à-vis
sur la durée
de la comptabilité, ils peuvent justifier la
somme. Parce que, par exemple, l'OM pour Vitinha a fait les deux. C'est-à-dire, évidemment, l'amortissement, ça c'est toujours le cas. Hein. Il est sur la durée du contrat, mais là, l'OM a négocié de payer aussi progressivement par palier. Ce n'est pas le cas de Chelsea.
Ouais, mais ça change rien pour le faire plus financier, ça change rien.
Non, ça change rien, mais ça change pour dire la puissance financière de Chelsea.
Il faut ajouter qu'en France, on n'a pas le droit de faire signer des contrats de plus de 5 ans. Ce qui est un énorme avantage pour les clubs anglais qui, eux, le peuvent et donc étaler la charge des transferts.
C'est une catastrophe. Ça dérégule complètement le marché. C'est le gros problème. C'est pas du capitalisme, c'est du libéralisme. C'est le pire qui peut arriver.
À outrance.
C'est le pire à outrance. Le capitalisme, c'est le marché, c'est normal.
Envoyez-moi Alléluia, s'il vous plaît.
Non, mais je l'ai toujours dit, Pierrot. Il me dit pas, ça c'est pas de gauche ou de droite. C'est la vérité.
Pierrot l'a perdu.
La vérité là-dessus, c'est pas de gauche ou de droite. Ça. C'est le capitalisme, bon, c'est l'échange, c'est le marché, mais il faut des règles.
Si t'as
pas de règles, on est mort. Là, c'est, et en plus, c'est n'importe qui. Ça me fait plus frémir parce que ça me fait plus frémir. Avant, on leur dit, oh, vous rendez compte, mais c'est tous les jours qu'il y en a un qui se lève, milliardaire, et 800 millions à Lyon. 800 millions à Lyon, mais nous, on a un certain âge. Tu te rends compte, Thierry, qu'on nous aurait parlé de 800 millions, ça ne savait même pas comment l'écrire.
Mais c'est pas combien on met de zéro.
Bien sûr, on n'aurait pas pu l'écrire. Alors, en chiffres non plus, mais en lettres, j'en parle même pas. C'est trop long. Et là, en 20 ans, les mecs, c'est des pyramides. On parle d'une inflation que dalle, les mecs qui sont... Et là, on te parle de 800, 400 millions, 600 millions, là. 800, l'an prochain, Mbappé, 500 millions. Mais c'est un truc de fou, ça dérégule. Le sport, avant tout, c'est un barnum où toutes les équipes travaillent ensemble pour qu'il y ait le barnum. C'est un peu je caricature, c'est le catch américain. Faut s'entraîner ensemble pour que les mecs soient à peu près de même niveau pour qu'il y ait quand même une compétition. S'il y en a un qui fait, si moi je fais 100 mètres avec Usain Bolt, personne ne va venir le voir au stade parce qu'il y a trop d'écart.
Bon, que, bon, c'est jamais sur les
premiers mètres. Non, mais il faut que ça soit. Là, c'est dérégulé. Ça me fait pas rire. Ils sont en train de pourrir ce jeu. Je pense qu'il y aura un retour plus tard. Il y aura un retour à la normale. Je pense que ça pourra pas durer à vita aeternam que des mecs viennent nous péter de
dunes. De toute façon, ça
polluer.
Ne peut pas durer à vita aeternam.
Non, non, mais ça pourra pas. Ça
pourra pas durer. L'espèce d'endettement, c'est pas vraiment un endettement, mais l'endettement comptable. Oui, mais de toute façon, ils vont le rattraper à un moment. Dans 7 ans, ils amortiront encore le transfert de Badiach.
Il va falloir que tous ces transferts, tout ça, ça cesse. Qu'il y ait un budget de 100 millions maximum ou 300 millions, qu'on reste dans l'humain. Et puis plus de transferts. Le mec, il a 3 ans à faire, il les fait.
Ou
des prêts entre joueurs, comme aux États-Unis. Encore une fois, je vous rabâche ça. Mais on va assainissons ça. Et pitié que le rugby ne prenne pas exemple là-dessus. Parce que nous aussi, on n'est pas dépourvus au niveau des cons. Il y en a toujours un qui veut copier les grands. En pensant que c'est mieux ailleurs. Alors que c'est pas souvent. Il y a des choses bien dans le foot, mais il y a aussi des choses mal. Et celle-là, pour moi, c'en est une. Faut arrêter avec la gabegie. Faut arrêter. Ça ne peut plus rien dire.
Eric, qu'est-ce que tu en penses?
C'est ridicule parce que malgré tout, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais je me mets mais ça a parlé de du côté économique, qui s'y connaît plus que nous, parce que bon. Dès qu'il y a 3-0, moi déjà je frissonne.
Je laisse parler de millions et de milliards.
Ça, je laisse faire parce que ça, il maîtrise. Moi, je sais pas. Mais par contre, moi, je voulais parler de sportifs parce que j'ai une pensée pour le coach qui galère d'ailleurs, puisqu'ils ont changé. Le nouveau, il est en grande difficulté.
Graham Potter.
Petit tout.
Tu connais pas le nom du mec, tu dis petit tout en fait, c'est ça?
Non, j'ai petit tout. Petit tout, c'est Tim.
C'est le jeune, Tim, quand même.
C'est pour ça que je fais petit tout. Potter. Non. Mais je me mets à sa place et j'ai mal pour lui parce que il va falloir qu'il fasse une équipe quand même. Et je rigole pas parce que Pierrot, on va raconter nos coulisses, tu m'as envoyé l'équipe type de Chelsea avec l'effectif par poste, les mecs. Il y a des postes où il y a 4 mecs.
Et 4 avions parfois.
Mais pas 4 pompes à vélo. Donc, je me dis, mais comment il va faire pour faire son équipe? Parce que je suis désolé, la tendance dans le football aujourd'hui, et même dans les grands clubs, c'est. Il y a eu, quand les clubs ont eu beaucoup d'argent, il y a eu cette tendance à faire de gros effectifs. Et les coachs, et même les présidents, se sont rendus compte que c'était contre-productif parce que tu mettais en grande difficulté ton coach quand tu avais un vestiaire un petit peu trop important avec des mecs sur le banc qui ont un gros pouvoir de nuisance, qui sont pénibles parce qu'en réalité tu gères les mecs du banc. Donc quand tu en as 5, ça va, quand tu en as 10, c'est compliqué, alors quand tu en as 20. Et donc je me dis, mais comment ils vont faire? Et c'est pour ça que, à la limite, et c'est ça qui est bien, tu regarderas qu'un club qui a beaucoup d'argent et qui travaille mal. Et Chelsea, ces derniers temps, c'est un peu le cas, parce qu'on regarde, ils sont au milieu de tableau. Ils vont peut-être pas faire de coupe d'Europe cette année. C'est-à-dire qu'ils vont
à Dortmund.
Hein, de quoi?
Il a pas trop le choix.
Il a pas trop le choix. Il va aller mettre pour lui. Mais heureusement qu'il y a que 11 mecs sur le terrain et que quand tu as trop de concurrence, à un moment donné, ça peut jouer contre toi. Donc, l'histoire des milliards et des millions. Bon, ben, ça, il a fait son truc, là. Bon, moi, j'ai pas tout compris, mais c'était, ça avait l'air bien parce que les milliardaires qui parlent de millions, moi, je trouve que c'est bien. Et par contre, sportivement, moi je pense que, écoute, tu sais quoi, ça va se réguler tout seul l'histoire. Tu vois, voilà, ça va, ils vont pas gagner, ils vont pas survoler le championnat d'Angleterre.
Oui, mais parce qu'ils sont pas bons. Mais ce que je veux te dire, c'est
deux fois de pas bons, mais même s'ils sont bons, tu as fait jouer 11.
Oui, mais c'est ce que je te dis, oui, mais 11, et ils prennent des joueurs ailleurs, qui pourraient jouer ailleurs, et ça, pourraient faire monter le niveau, et qui jouent pas
dans l'exemple, c'est Enzo Fernandez, donc, qui a brillé avec l'Argentine, qui est champion du monde, qui était à Benfica qui fait une très bonne première moitié de saison, c'est peut-être leur joueur le plus important. Ils sont en 8e de finale de la Ligue des Champions et ils ont levé la clause au dernier jour du mercato, 120 millions, ce qui veut dire que Benfica, bon là, va avoir des ambitions mesurées
sur la deuxième moitié du championnat. Mais s'il est fait pour jouer contre Mbappé, pas pour jouer avec, autrement il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de Barnum, il n'y a plus d'équilibre entre tout. Enfin, c'est une caricature si tu veux, mais c'est un peu comme ça. Et d'en avoir 3, tu peux en avoir 2, 3, c'est de la gabegie. Voilà,
mais même d'ailleurs, Steve pourra nous parler de ce qui se passe en NBA, je crois que justement, par rapport à leur système, fait que
les stars jouent pas ensemble. Hein.
Et ben voilà. Oui,
bah, enfin
deux aussi. Deux, allez, deux.
Les dernières tendances, c'est qu'aujourd'hui les stars veulent se jouer ensemble, oui, pour essayer d'être champion NBA. Donc
t'inquiète pas, c'est une question de le Barnum, s'il tourne pas, ils savent qu'il y a plus de spectateurs, il est équilibré.
Aussi que l'on sait. Après, il a déjà refusé un transfert, par exemple.
Ouais, voilà, tout à fait.
Chris Paul, je dis pas de bêtises.
Après, oui, mais enfin, ça arrive une fois.
C'est pas rose non plus.
En NBA, il y a le salary cap, c'est-à-dire que si tu dépasses ces trucs, tu payes des amendes qui sont après redistribuées aux autres équipes. Donc le rugby aussi a installé un salary cap.
Mais non, mais c'est un truc de fou parce que c'est un sport hyper libéral.
Oui, mais alors après, malgré tout, il y a quand même des équipes qui dominent financièrement d'autres. Malgré tout.
Oui, mais ça, tu peux pas. Il y a des équipes qui acceptent de payer des amendes.
Il y a des joueurs qui font des grèves. Rappelle-toi dans les années 80 qu'on fait des grèves pendant un an. Ça n'existe pas en Europe. C'est impossible. Dans un truc hyper libéral.
C'est pas le même genre de grève, hein. C'est pour la répartition
oui, joueurs. C'est-à-dire, ils ont un poids de nuisance.
Ça a un nom, comment ça s'appelait déjà?
Lockout. Non, mais pour revenir sur Chelsea, ça, ce qui est inquiétant, Chelsea et l'Angleterre, c'est que c'est peut-être le dernier pays qui fonctionne comme ça, puisque les autres pays, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, même nous, la France, avec le Paris Saint-Germain, se sont un petit peu calmés. Et ce qui est inquiétant, c'est que c'est parti pour durer, parce que je crois qu'ils ont renégocié les droits à l'international pour 1 milliard d'euros. Donc 1 milliard d'euros.
La Ligue 1,
c'est 80 millions. Hein,
une vie de salaire. Une vie.
Donc 1 milliard, ça veut dire que tous les clubs, ils vont avoir encore plus d'oseille pour encore plus de dépenser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une uniformisation d'un règlement à travers tous les championnats et tous les pays, et ben la PL, elle va continuer à fausser les marchés, à surpayer des mecs. Le 20e de PL, le dernier, il viendra servir. C'est le 3e de Ligue 1. Voilà, merci, c'est pour nous. Et voilà, à un moment donné, il faut instaurer des règles. Et le fair play financier, ça a duré 2 ans. Et aujourd'hui, c'est Pipoland.
Supprimer la PL.
C'est le problème de la croissance infinie, Vincent.
Ouais mais après, le problème de la PL. T'as vu, il faut supprimer la PL depuis le temps que je l'ai dit. La PL, on supprime. Voilà,
le gros problème, alors, le gros problème qu'ils vont avoir malgré tout, c'est qu'ils sont dans un championnat qui est hyper riche aussi. Et c'est-à-dire que les autres, ils travaillent pas mal non plus, tu vois. Donc ça fait qu'ils sont 10e du championnat.
Mais il faut 10 ans, 15 ans de plus pour les gagner. Au moins, 20 milliards.
Facile, 15.
On a oublié de dire que l'année prochaine il y a Nkoukou et Malo Gusto qui vont rejoindre l'effectif.
Exactement.
Je m'appelle
Guillaume, supporter de Chelsea, il va défendre son club sur RMC au 32-16. Salut Guillaume.
Bonjour tout le monde.
Salut Guillaume. Ça va Guillaume.
Boulanger. Alors.
Ah, boulanger.
Ah, bon.
Quels sont les arguments en faveur de Chelsea?
Bon, avant de me faire peut-être découper, non, ça dépend où sont les bases du débat. Si les bases du débat, c'est est-ce que c'est bien et normal qu'on soit capable d'acheter autant avec autant d'argent, ma réponse, elle est non. Voilà, non, pour moi, le système un peu à l'américaine avec le salary cap, moi je trouverais ça génial appliqué dans le foot, ça mettrait des limites. Maintenant, j'essaye de réfléchir et de mettre une cohérence sur ce qui a été fait. Déjà, Boydie, quand il a acheté le club 4 milliards. Il y en a deux, c'est pour le rachat du club. Et les deux autres, en gros, c'est l'investissement dans le stade et les transferts. Bon, au moins, on peut dire qu'il tient parole. Les transferts, c'est fait. Maintenant, quand vous regardez un petit peu l'effectif et que vous regardez toutes les lignes, j'espère que je ne vais pas perdre Vincent, vous prenez le gardien Mendy, ça sent la fin, on a racheté un gardien à Chicago. Vous regardez les défenses, à part James à droite, il nous reste Azpilicueta, donc il a racheté Malo Gusto.
Il n'y a pas aussi, hein.
Numéro 1. Donc du coup le remplacement de Mendy, ce sera le jeune. En défense centrale, vous allez avoir Thiago Silva, 37 ans, même s'il est monstrueux, on va arriver au bout. Et après, malheureusement, Koulibaly, il fait pas le taf aujourd'hui. Donc du coup, il a racheté Fofana, il a racheté
Badiachil,
merci. Et après, quand vous prenez à gauche, il y a Alonso qui est parti, et puis il a racheté Cucurella. Et quand vous regardez
pour la modique somme de
aujourd'hui. Pardon ?
Pour la modique somme de Cucurella, un arrière-gauche. Hein.
Ouais,
c'est dingue.
Et qui vient de Brighton.
C'est le market
et
fraise à 600 euros.
Non, mais pour moi, c'était le petit cadeau de Potter,
bienvenue.
Parce que c'était son arrière-gauche à Brighton. Donc, à mon avis, il l'a ramené là-bas. Et après, quand vous regardez le milieu de terrain, malheureusement, on n'a plus que Kovacic qui tient le coup parce que Jorginho est parti à Arsenal. Et puis, Kanté, malheureusement, on ne le voit plus. Les autres, c'est des jeunes.
Ne décolle pas, tu vas nous faire pleurer dans 2 minutes. Tu vas me faire chialer. Je te jure, je suis à deux doigts de chialer.
Vous allez descendre. Je le maintiens.
Je le maintiens.
Pour le moment, voilà. Et après, quand vous regardez Pulisic, malheureusement, il ne tient pas le coup.
Non, mais on attaque là, ça ne tient plus la route là. là, ça tient plus la route là. Moudric, voilà. Joao Félix, Pulisic, Havertz, Aubameyang, Sterling, Mashoké, Ziyech.
Mais s'il la met pas une, c'est peut-être parce qu'il est en concurrence.
Tu ne le paies pas. Werner, on l'a sorti et on n'a plus personne. S'il nous reste Kai Havertz qui est à la base, qui n'est pas attaquant.
Je vais chialer pour de bon.
C'est mouvant. Par contre, il y a un truc magnifique. C'est la première fois au foot que j'entends un goal de Chicago. Ça claque.
Non, mais la mort d'un club pauvre, ça fait de la peine. Moi, j'ai envie de pleurer là, dans deux minutes.
C'est fou. Pour rien, Guillaume.
Je rigole. Alors, toi, t'as du mal à payer ton électricité.
Vincent, ils ont fait Kai Havertz si tu veux contribuer.
Bien sûr. Si tu veux les aider. Un goal de Chicago.
Est-ce que tu as déjà contribué à une cagnotte Litchi, toi, Vincent? Ou Kiss Bang Bang?
Lui, il était Kiss Bang Bang. Ça, c'est en soirée. Et les Litchi au restaurant japonais.
Il le trempe avec un caprice des dieux.
Avec du brie. Avec une tartine de brie. Je le trempe. Le litchi, quoi.
Le litchi est frais, c'est bon.
Ah ouais, moi je me régale.
Vous savez ce qu'il fait, Vincent, en ce moment? Il dîne à 18h30. Genre, ouais, je suis sérieux. Comme ça, après plus rien. Et à 22h, le frigo. Je le connais par cœur. Mais lui, il dit non. J'ai mangé à
18h30. Merci à Timothée Mémon. Merci à Guillaume, notre supporter de Chelsea. Dans un instant, l'agacement de Laurent Blanc qui a quitté la conférence de presse de l'OL aujourd'hui. À tout de suite.
16h26, ça va mal dans le foot. On revient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC. 15h-18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
On y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Il est 16h30 avec Eric Dimeco, Stéphane Hébrin, Adrien Aiguin, mon petit Pierrot. Dans demi-heure, fais-moi claquer le programme.
Alors, dans une demi-heure, Vincent, le 15 de France en Italie, on a la compo des Bleus. Mmh. Est-ce que le faux pas est réellement possible en Italie dimanche? On ne sait jamais, nous en parlerons avec nos invités surprises.
Tu t'es mis la peur depuis quelques jours. Les anciens disaient après la fête, la défaite.
Oui, en italien, comment on dit ça?
Non, c'est pas tout à fait ça.
Ça, c'est dans une demi-heure, mais d'abord, nous prenons la direction de Lyon.
RMC, le Mosca.
Alors, Laurent Blanc, habituellement, il est plutôt stoïque, très calme, posé. Oui. Même si tout ne lui plaît pas dans ce qui se passe.
Il donne du pain à moudre.
Et là, il s'est agacé. Pourquoi il s'est agacé? Parce que le mercato est terminé et qu'on ne lui a parlé que de mercato. Alors, il a d'abord prévenu, ça donnait ça.
Écoutez, si on a fait la dernière fois une conférence de presse sur le mercato avant la fin du mercato. Là, vous êtes en train de me parler du mercato. Vous savez, voilà. Vous savez en plus que vous venez me poser une question il y a deux secondes en disant voilà, vous êtes heureux, vous êtes satisfait que le mercato soit terminé et vous continuez à me parler du mercato. Moi, je veux bien être gentil avec vous, sympa et tout, mais bon, voilà, parlez-moi d'autre chose, quoi.
Alors, quelques secondes plus tard, une nouvelle question sur le mercato. Vous n'avez pas bien comprendre la question, mais peu importe, puisque c'est la réaction de Laurent Blanc qui compte.
C'est bon? Si vous voyez, vous avez fait des surpositions.
Je m'en vais, donc il s'est levé au bout de 10 minutes de conférence de presse et il est parti. Alors, sans fracas, vous l'avez entendu, il y a pas de. C'est pas très grave tout ça, mais c'est significatif peut-être d'un petit agacement de Laurent Blanc.
Oh ben c'est agaçant des fois, tu sais, il a quand même la pression, Laurent Blanc, hein. C'est quand même, c'est pas facile tous les jours, hein. Tu vois, tu je veux dire, quand tu caracoles en tête, tu déconnes, c'est toujours pareil. Quand t'es bien, que t'es en haut du classement, que ton équipe elle tourne, les journalistes avec eux tu déconnes, t'es content d'y aller, même aux conférences de presse t'es content d'y aller, parce que des fois, t'en as un peu marre d'être toujours qu'avec des mecs qui ont 20 ans, 25 ans, tout ça, là, tu rencontres des gonzes quand ton âge.
Il les connaît, tu les connais.
C'est toujours les mêmes depuis longtemps.
Tu discutes le coup, t'es content d'y aller. Quand tu prends que des bananes, que t'es dans la douleur, que t'as des mecs, quand tu leur expliques des trucs, ils comprennent rien dans l'entraînement, parce que là, ça va être ça. Lyon, te trompe pas. Hein. Si, les mecs, là, ils écrivent pas par les 3P pour voir le classement
qu'ils ont. Le dernier match, il a dit, je sais avant, sur le banc, je sais qu'ils vont faire un mauvais geste. Je le sens, il a dit Laurent Blanc, en parlant de ces joueurs.
T'es théorie pilée, Piron, t'es là, t'es comme un con, et puis en plus t'as un mec qui te pose une question que t'as pas envie d'entendre, parce que bon aussi quand des fois en face quand il y a des mecs qui sont un peu insistants, mais t'as des questions qui te gênent, et ben tu t'énerves et tu dis bon les gars, j'en ai marre, moi je m'en vais, c'est naturel, c'est humain, et c'est le foot, et c'est le rugby,
c'est le basket. C'est de quelque chose ou pas, Eric, ou de rien du tout?
Comme ça, voilà.
Il est agacé malgré tout, parce que depuis qu'il est arrivé, ça tourne pas comme il l'espère, donc voilà, et puis on lui parle de tout sauf de football. Ouais, voilà. Et puis on sait que Laurent cet exercice-là, mais on se met aussi à sa place. Tu t'imagines que chaque fois, la veille des matchs, est obligé d'aller parler avec les gars là, et des fois tu as rien à leur dire. Tu as rien à leur dire, et donc il est agacé, et puis.
Que nous, Eric, on est payé pour parler avec des journalistes. Oui.
Exactement.
C'est toujours très intéressant. Mais on ne répondrait pas des fois, même pas qu'on leur dirait bonjour des fois.
Alors on zappe Laurent Blanc. Un mot quand même sur l'affiche de la journée de Ligue 1, c'est dimanche soir Marseille-Nice, puisque c'est le hasard du calendrier, le premier match de Terem Moffi sous le maillot de Nice. Lui qui était entre Nice et Marseille, qui a choisi Nice.
C'est des nouvelles de Stifounet.
Oui, là, il est là. C'est intéressant ce qu'on dit,
Stéphane. Il n'avait pas donné la parole sur Laurent Blanc. J'avais plein de trucs à dire.
Ton métier, c'est pas d'écouter la radio, c'est de parler dedans.
Pour une fois que l'émission est calme, moi, ça me convient très bien. Vous voyez, il ponctue vos interventions de petites blagounettes dont il a le secret. Ça suffit. Moi, ça me va très bien. Tu voulais dire quelque chose sur Laurent Blanc, toutefois?
Non, parce que je vais dire un truc de très intéressant et Vincent va dire: ah là, tu voulais dire ça, c'est pas intéressant.
Je te jure, je dis rien.
Alors, non, mais en fait, Laurent Blanc, il s'agace parce qu'il y a un match demain contre 3, ou dimanche contre 3, et les mecs, ils passent. Oh, les enfoirés.
Vas-y.
Et les mecs, pendant 10 minutes, lui parlent du mercato. Lui, il a envie de parler du match contre 3, en fait.
Il a surtout pas envie de parler du mercato.
Envie de parler du mercato et de Jeffinho et de Sarr qui est arrivé. Donc, au bout d'un moment, il se barre.
Ce Marseille-Nice. Les supporters du gym ont repris exactement le discours de Didier Digard, l'entraîneur, sur le choix de Terem Moffi. Écoute.
C'est un joueur intelligent, il signe dans un club avec un bon projet, donc la suite lui appartient. On espère qu'il va faire de belles choses et que dimanche il nous fasse gagner le match. Un petit doublé pour commencer.
Je suis franc, je souhaite de tout cœur qu'il gagne. Moi je suis un ancien, j'ai habité longtemps Marseille, je supportais l'OM, mais depuis les incidents des bouteilles et compagnie, c'est un club que je peux plus voir.
Là on a eu un joueur intelligent qui a choisi le projet de Nice par rapport à celui de l'OM. Et ça fait plaisir de voir qu'enfin on peut rivaliser avec des clubs comme ça et que ça montre aussi que le projet qui est en place est solide. Vitinha, c'était le choix numéro 2. En plus, il le paye 32 millions, plus cher que Moffi. Moi, je pense que la bonne affaire, c'est Nice qui l'a fait. Moffi, c'est quand même 14 buts cette saison, toute compétition confondue. Vitinha, c'est 7 buts dans le championnat portugais. Donc moi, on m'aurait donné le choix entre Moffi et Vitinha, j'aurais signé Moffi direct.
Mais il le disait avec un sourire parce que le joueur est intelligent, c'est ce qu'avait dit Didier Digard, l'entraîneur de Nice, pour chambrer un peu, quand tu vas poser la question. Qu'est-ce que ça vous fait qu'il ait choisi Nice?
C'était des supporters du Stade.
Tu l'as dit, il y a déjà une belle rivalité entre Marseille et Nice, Eric. Ce petit épisode-là rend le match de dimanche sympa.
Tu as oublié un épisode, l'épisode de Dieng en début de saison aussi. Là-bas, qui fait la visite et qui prend les carottes.
Ah oui, c'est ça, à la maison après. Le mec, il n'est pas reçu à Nice.
Ça va égayer le match. Voilà. Mais attention, Nice, depuis que Digard est arrivé en entraîneur, là, ça tourne. Donc ça va être un super match. J'ai hâte de voir ça.
Alors on zappe le foot, mais on reste à Marseille, puisqu'aujourd'hui le parcours de la flamme olympique pour les Jeux de Paris 2024 était dévoilé par Tony Estanguet. Et où était-il pour faire cette annonce? Il était à Marseille, tout comme Julien Richard. Salut Julien.
Salut tout le monde. Salut Julien.
Pourquoi à Marseille? Parce que le 11 août, ça sera l'arrivée, mais le 26 juillet, eh bien la flamme partira de Marseille pour rejoindre la capitale.
Alors c'est pas le 26 juillet, mais on va reprendre les choses dans l'ordre. La flamme va être allumée traditionnellement à Olympie par les rayons du soleil, et cette flamme, elle va traverser la Méditerranée en bateau, et pas avec n'importe quel bateau, puisqu'elle embarquera à Athènes sur le prestigieux voilier le Belém, un fameux trois-mâts, Vincent, une dizaine de jours de traversée, cap donc sur Marseille, fondée. Bien sûr, vous le savez, il y a 2600 ans par les Grecs, arrivés grandiose au programme pour le Belém et la flamme directement dans le vieux port, a priori en soirée pour que ce soit encore plus spectaculaire. Alors, on n'a pas encore la date exacte. On sait simplement que ce sera au printemps. Une grande célébration prévue sur le vieux port de Marseille. Première ville donc à accueillir la flamme. Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation des Jeux.
On dit à jamais la première ici, à jamais les premiers. Ce sera le début des Jeux ici, c'est ça.
Marseille, c'est une ville spectaculaire. C'est la garantie d'avoir des images très spectaculaires qui vont montrer le meilleur de notre pays. La passion du sport, on la vit ici au quotidien et c'est une ville populaire. On veut que ce soit la fête, on veut que ce soit un grand moment de rassemblement. Et Marseille, pour nous, cocher toutes ces cases-là...
Voilà. Alors on a donc il y a un mec qui va arriver pour se faire oh tu peux m'allumer la cigarette, le mec qui va arriver à la femme il va se casser. Vas-y, voilà, Julien. Ce qui va arriver
Julien. Donc on a le départ de la Flamme Marseille, le parcours du relais à travers toute la France, on le connaîtra en mai prochain, il y a une soixantaine de départements qui seront traversés pour arriver avec une arrivée donc symbolique à Paris le 14 juillet, et puis la Flamme, vous le savez, allumera, embrasera la vasque olympique, ça ce sera le 26 juillet 2024 Pierrot, jour de la cérémonie d'ouverture.
C'est bien, ça va donner une bonne image du pays,
On respecte pas l'histoire, parce qu'à l'époque, elle venait pas d'abord d'Athènes, elle venait de Mykonos, c'est pas la mec qui la tenait, la Flamme. C'est pas du tout la mec qui l'avait, la Flamme.
Les Marseillais sont fiers, Eric.
Bien sûr. Et puis, il a raison, Tony. Ça va faire de belles images.
C'est beau l'arrivée.
T'as pas demandé, toi, de courir avec la Flamme?
L'arrivée sur Marseille par la mer, c'est toujours magnifique.
C'est thriller.
C'est vrai qu'avec mes jambes de froid,
j'ai une vision d'horreur. On a fait une magnifique tournée au mois de juin dernier. On sort d'un restaurant, il y a une ruelle dans Toulouse, et les deux Moscato Dimeco marchent loin devant nous. Et il faut dire que là, t'avais la hanche qui était rouillée, Vincent, donc tu penchais d'un côté. Eric, il a des soucis, il a une jambe folle. Et du coup, j'ai dit à Pierrot, regarde, ils sont en train de refaire le clip de Thriller. La vision était extraordinaire. Bravo, les gars.
Marseille qui accueillera, on le rappelle, les épreuves de voile et des matchs de foot au tournoi olympique. Oui, c'est pour cette raison que, le parcours démarra à Marseille. Alors on zappe les jeux, mais pas tout à fait, puisque Vincent, ce week-end, c'est le début de la qualif pour les boxeurs. Alors c'est pas un tour de qualification olympique, c'est une sélection franco-française pour savoir qui ira disputer les Jeux européens qui eux attribueront les quotas en boxe
pour les Jeux.
Et donc parmi les boxeurs qui s'affrontent, et ben exactement, il y a 3 médaillés des Jeux de Rio 2016. Et évidemment, il n'y aura pas
Hamzaoui.
Hamzaoui?
Amraoui?
Non.
Safia Noumaï, non?
Ounaï.
Ah oui, non.
Hamzaoui.
Pas loin, j'ai
Hamzaoui. Alors, on a un petit problème de liaison apparemment avec Saint-Quentin dans l'Aisne, où on devait retrouver Valentin Jamin. Qui sera au tournoi de boxe. Mais donc, il y aura peut-être des boxeurs qui sont désormais passés professionnels.
Oui.
Notamment Estelle Mosselli, Mathieu Boderlic
Que Boderlic. Il a 33 ans, Boderlic. J'en reviens pas, dis donc, c'est incroyable.
La carrière avance,
c'était.
Valentin Jamin est avec nous. Salut Valentin.
Salut tout le monde.
Valentin. Alors, explique-nous comment ça va se passer, ce tournoi de qualif.
Alors, on a en fait des concurrents qui sont répartis évidemment par catégorie, ils sont 4 au maximum. Normalement, il y avait 4 concurrents par catégorie, mais il y a eu des forfaits, des blessés, et donc tous ces concurrents vont se rencontrer, et en fait à la fin on fera un classement, et le premier de sa catégorie à chaque fois aura le droit d'aller disputer les Jeux européens qui commencent le 21 juin en Pologne, à Cracovie, et là seront distribués les premiers quotas. Donc en fait l'idée, c'est vraiment de prendre les meilleurs Français sur ce tournoi qui auront la chance d'aller, pourquoi pas, décrocher leur place pour les Jeux Olympiques. Et donc Estelle Mosselli, justement, elle avait un petit peu de réussite, on va dire, parce qu'il y a eu 2 forfaits dans sa catégorie. Il suffisait donc qu'elle remporte un combat pour terminer première de son groupe, on va dire. Et donc elle l'a fait, elle a remporté son combat. Elle sera donc des Jeux Européens à Cracovie en fin du mois de juin. Et donc elle pourra essayer de se qualifier pour les Jeux de Paris 2024. Mais ce qui est compliqué pour les Boderlic, les Oumia et les Mosselli, c'est qu'en fait, ils viennent de mener une carrière professionnelle, donc 8, 10 ou 12 rounds pour les combats. Et là, ils reviennent pour une carrière en boxe olympique amateur avec 3 rounds de 3 minutes. Donc, ce que nous disait Mathieu Boderlic, c'est que c'est difficile, le cardio monte vite. Il nous disait, il avait l'impression, en fait, d'être asphyxié. Donc, c'est un vrai défi pour ces boxeurs, même s'ils ont été médaillés en 2016.
Ouais, après, ce qui est dingue aussi, c'est que tu parles de Mathieu Boderlic. En fait, les boxeurs français, tu ne les connais pratiquement que par les Jeux Olympiques. Hein. Oui. Toujours, aujourd'hui, c'est toujours pareil. Hein.
Oui, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, tu les connaisses plus.
Non, 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 ailleurs. Mais peu importe. Parce si tu veux, c'est, nous, oui, notre bien problématique, sûr. C'est les, bo-
oui,
les
oui,
boxeurs.
Oui, oui,
français.
Mais les boxeurs amateurs, tu ne les connais que ceux qui font, que ceux qui font les Jeux Olympiques, les mecs qui font les championnats de France, tu ne connais pas.
Finalement, les professionnels, c'est pareil, hein, parce qu'il y en a plein des boxeurs pro. Bah,
oui, maintenant, mais autrefois, tu connaissais les Turzo, tout ça, quand ils étaient sur Canal, parce qu'ils n'étaient pas sur des plateformes, donc tu ne connais pas. Tu savais qui était champion du monde, poids lourd, poids léger, champion d'Europe et tout ça. Maintenant, tu ne connais pas. Hein.
Journal moyen.
C'est l'heure du journal moyen sur
C'était la 7ème compagnie hier qui a pris le pouvoir dans le Moscato Show. Et on va revivre le bonjour de Vincent à Johan Claret, notre invité ski hier. Oui. Petit contretemps.
Est-ce que c'est nécessaire?
Non, mais c'est drôle.
16h40 pour le super Moscato Show, on vient tout de suite.
RMC. 15h-18h. Le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
On y arrive au Mastic, il est 16h47. On est dans le Super Moscato Show. C'est l'heure du journal moyen d'Adrien.
À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC. Retour sur le Super Moscato Show d'hier. Tassin était présent. Tassin. Le chef Chaudard également. Vous avez pris le pouvoir. Ils ont pris le pouvoir dans le Moscato Show. C'était sympa. Cours. Vincent, il y a un jet privé à vendre. Ça peut t'intéresser.
Toi, je sais que tu as l'acquisition. T'as 8 places ou un 12 ?
10.
Non, ça me voit peut-être.
Ça va ? 16h55. Première citation du Kikadi. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi, là, pour la première question.
Et Dieu pour tous.
Et à partir de 17h, il y a un participant exceptionnel, Pierrot. Ouais.
Qui est un invité surprise.
Surprise, qui fera le cadre également.
Très bien pour, autant.
Vous voyez ?
Vous écoutez RMC.
Un indice. Oui, vous la connaissez, c'est à dire, Pierrot. Ouais.
Vous écoutez RMC, c'est le 1362e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. 1362.
C'est bien. En direct de la rédaction du Super Moscato Show,
c'est le journal moyen
d'Adrien Aigouin.
Retour donc sur le Moscato Show d'hier. Ils étaient là, ils viennent régulièrement. Tassin, Chef Chaudard, ils étaient là. C'était le retour de la 7ème compagnie qui fait de la radio. Donc sur RMC, tout le monde est en grande forme hier. C'est Denis qui ouvre le bal. Denis répond à la question moyenne du jour. Quel est le plus grand bonheur pour les Marseillais, la blessure de Mbappé ou la victoire à Nantes? Réponse de Denis.
Moi je dis que si le championnat était plus relevé, mais je répondrai pas à une victoire à Nantes.
Non, là ça peut être intéressant.
C'est pas intéressant.
Qu'est-ce qu'il a dit? Ça veut dire quoi ce qu'il a dit?
Toi t'es impitoyable, Vincent.
Ouais, non, mais là, ça veut dire quoi ce qu'il a dit?
Pas compris le début, ni le milieu, ni la fin.
Si le championnat était plus relevé, je répondrai pas.
Après, Denis s'exprime et sur
il n'a que des sujets, des compléments, des verbes, il n'a que tout.
Le complément d'objet direct.
Écoutez bien le rire de Stephen Brun que va provoquer Denis, puisque Denis essaie de nous parler des sportifs qui renoncent aux équipes de France en rugby, en foot.
Mais on ne peut pas refuser l'équipe de France. Pour moi, c'est impossible. Quand Bamaïma arrête, je suis désolé.
Il a arrêté.
Le rire de Stephen. Moi, j'ai envie de le réécouter juste pour le rire de Stephen.
Mais on ne peut pas refuser l'équipe de France. Pour moi, c'est impossible. Quand Bamaïma arrête, je suis désolé.
Il a arrêté, lui.
Et puis ensuite.
Il a arrêté, lui. Tu as vu que Vincent, ça ne le choque pas du tout. Il continue à parler. C'est normal.
Il a l'habitude, Vincent, son ami, Denis.
Pour lui, c'est
et
le
ensuite,
nom.
Notre chef chaudard.
Il a compris, Vincent.
Notre chef chaudard de la Cité Compagnie de la Radio, c'est Vincent Moscato, qui a donné son avis sur le favori du tournoi Destination, l'Angleterre. Ok, tout est nickel. Sauf que le chef chaudard n'avait pas envie de finir sa phrase. Il a fini sa phrase à sa façon, il n'a pas envie. Fatigué.
Et même si au niveau de l'ouverture, ils ont un jeune Marcus Smith qui est bon, mais qui d'après moi n'est pas assez mûr. Je pense que la surprise, vraiment la grosse surprise, c'est de venir d'eux.
C'est quoi ça? Il a pas envie. Alors écoutez, c'est le mec fatigué, il dit vous débrouillez avec la fin de la phrase. Pas envie.
C'est incroyable. Je pense que la surprise, vraiment la grosse surprise, c'est de venir d'eux.
Elle
peut venir d'eux.
C'est ça,
risque de venir d'eux.
C'est pour la fin de semaine.
Et puis Eric Dimeco aussi avait envie d'intervenir dans l'émission. Hier, c'était sympa sur l'Olympique de Marseille. Marseille va-t-il être champion, Eric? C'est intéressant.
Je vous pose la question. Bien sûr qu'eux, ils ont pas la même motivation contre l'OM que contre les autres. Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est un rêve insensé de dire que l'OM peut gagner?
Non, c'est totalement.
Au stade de l'Odrome contre l'OM.
Non, oui, je pense que c'est vrai pour l'OM, contre l'OM, il n'y a pas de souci.
Monsieur Mourier.
Et puis hier, on a parlé ski. Vincent. Donc, moi, je le connais par cœur. Tout ce que je vais vous dire, c'est vrai, en fait. Parce que Vincent me l'a avoué. Johan Claret. Nous recevons Johan Claret, descendeur. puisque ce week-end, à venir, c'est l'ouverture des championnats du monde de ski en France à Courchevel. C'est une compétition qui est à venir, dans quelques jours. Et donc, on reçoit Johan, la compétition n'a pas encore eu lieu, il arrive, il est en préparation. Et pour l'accueillir dans le générique, on repasse un extrait de son exploit au jeu d'il y a un an à Pékin. C'est une façon d'habiller un peu le générique.
Ça croit qu'il est chef.
Alors, et écoutez la façon dont l'accueille Vincent, je crois qu'on est sur une grosse confusion, on écoute.
La deuxième place pour Johan Claré, la deuxième place provisoire pour Johan Claré. Waouh, c'était super yo-yo aujourd'hui.
Médaille d'argent, France.
Johan Claré.
Notre cri du cœur, Johan Claré, vice-champion olympique de descente, vice-champion du monde de Super G, à 4 jours du début des championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel en France, donc devant son public. Salut Johan.
Comment il va?
Salut à tous. Bonjour.
Salut Johan. Félicitations. Hein. Bravo. Tu nous as régalé. C'était quelque chose.
Donc là, il a dit merci, c'est gentil. Et moi, je le prends. Oui, moi, je le connais par cœur, Vincent. Oui. Limite, tu croyais qu'il venait de descendre là, la course là.
Ah, oui. Au bout d'un moment, je me suis dit, après, au fil du temps, je me suis dit, merde.
C'est à partir de lundi les championnats du monde.
Et écoutez, incroyable. Le meilleur, parce que Pierrot, inconsciemment, en fait, tu te dis qu'on est peut-être sur ce qu'on appelle une Bernard Lemaître, un peu, c'est un moment de gêne. Donc du coup, tu interviens et franchement, ça passe nickel, mais subtil en plus, on écoute.
Notre cri du cœur, Johan Claré, vice-champion olympique de descente, vice-champion du monde de Super G, à 4 jours du début des championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel en France, donc devant son public. Salut Johan.
Comment il va?
Salut à tous. Bonjour.
Salut Johan. Félicitations. Hein. Bravo. Tu nous as régalé. C'était quelque chose.
Hein. C'est merci, c'est gentil.
Là, on a réécouté la médaille d'argent olympique, mais c'est la grande forme puisque tu viens de faire.
Voilà, Pierrot. Pierrot, c'est un phénomène. Voilà,
c'est pas le phénomène de la sortie.
Il a failli te dire ce que tu connais.
C'est bizarre, ça arrive qu'à toi.
Ça arrive qu'à toi.
T'as vu comment c'était présenté, comment Pierrot le dit.
Claré, il est surpris un peu parce qu'il dit merci.
Oui, merci, c'est gentil.
C'est une confusion avec lui. Il vient de faire deuxième.
Oui, il vient de faire deuxième à Kesbul. Du coup,
il s'est peut-être dit, c'est ça.
Mais moi, toute la vie, je le remercierai.
Voilà. C'est l'instant star, c'est l'instant dépense de star dans le foot.
Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde.
Alors, selon la presse espagnole, Vincent Cristiano a vendu son jet privé. On ne connaît pas encore l'identité de l'acheteur. C'est pas toi, Vincent, qui a acheté le jet de Cristiano?
Non.
Alors, donc, le prix, il lui avait coûté à l'époque, je sais pas si ça baisse le prix d'un jet quand tu, ouais, si ça,
ça baisse. Oui.
Il avait coûté 20 millions d'euros. Il avait acheté un jet, 20 millions. Il n'y en a que seulement 200 exemplaires dans le monde de cette forme de jet. Ce jet, c'est 10 personnes, un frigo, un téléphone, accès à tous les services multimédia. Il y a plein de Google,
quoi. Bah, oui, voilà.
Le wifi, four électrique, parce qu'il tu fais une petite pizza parfois au four.
Une galette, un four à moi pour les pizzas.
Trois capitaines, deux hôtesses. Cristiano l'a vendu pour une raison bien précise. Il est devenu trop petit parce que la famille s'agrandit. Et du coup, il a des soucis.
Il veut acheter plus grand, à la trace carbone.
Non, pas du tout. Alors, je pense que là, c'est pas son principal souci, Cristiano, l'environnement. Du coup, grande famille, Vincent, si tu as un bon plan pour Cristiano, il cherche un jet. Ouais.
Tu crois que le Wi-Fi marche mieux que dans le TGV, là ou...
Oui, je pense,
Tu vas te rigoler.
Vous vous souvenez qu'il y avait un site qui avait compilé le nombre de vols du jet de Lionel Messi entre juin et fin août 2022, donc les vacances d'été.
Oui, exact.
52 vols.
Oula. Tu vas te régaler quand même.
52 vols.
Mais faut le rentabiliser le jet. Hein.
C'est la vraie liberté, ça. Tu prends ton avion, tu dis, bon, mais là, les filles, on va à Euro Disney.
C'est bientôt fini tout ça.
De Paris, tu les colles, tu vas à Euro Disney. C'est
bientôt fini, là, dit Pierrot, quand ses collègues vont passer.
Les collègues de Pierrot, quoi.
Heureusement, ils ne passeront jamais.
Allez, vas-y, ou quand il n'y aura plus de pétrole, Vincent.
Oui, bah oui, pareil, mais hein. Non, mais hydrogène électrique, Pierrot. Oui. Pierrot, de nouveaux trucs. Il va y avoir bientôt. Dans 30 ans, il n'y aura plus aucune pollution. Tu verras.
Et on ne sera pas là pour le voir, quoi.
Puis il n'y aura plus de pauvres.
On sera peut-être déjà mort à cause des particules fines.
Pierrot, et puis il n'y aura plus de pauvres dans 30 ans. Ils seront tous morts.
Chacun pour soi dans Kikadi, c'est la nouvelle règle, c'est la première question.
Vas-y.
Chacun pour soi.
On est prêt.
À connecter son téléphone, il a tous les wifi et les Google.
Les lunettes, tout.
Stephen, tu représentes Denis.
Charles. Tout à fait.
Dans quel club a signé André Ayew?
Cardiff.
Non.
Glasgow.
Ah non.
Rangers.
C'est un club anglais qui commence par N.
Nottingham.
Yes. Il a eu Nottingham.
Pourquoi tu dis reviens? Tu dis pourquoi tu dis reviens?
Parce qu'il était parti. André Ayew, il était.
Il était pas à Nottingham.
Ayew. Non, mais il revient en Angleterre. Il revient en Europe. Il revient en première ligue.
Ah, mais alors tu dis reviens.
Je dis il revient en première ligue.
Quand il se fait mal, il dit Ayew.
Le premier point.
C'est pour qui ça?
Vincent Moscato. Donc nous tirerons au sort le coéquipier de Vincent Moscato tout à l'heure à 17h45 au bout d'une heure exceptionnelle, puisqu'un invité surprise arrive pour participer à nos débats et pour vous annoncer quelque chose. À tout de suite, restez bien sur RMC.
16h57, le super Moscato Show, on vient tout de suite.